enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour à tous. On va partager une parole ce matin dans Éphésiens chapitre 3. Et on va lire les versets 19 et le verset 20 qui dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, on va lire aussi le verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. » Et en fait, ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous sur la réalité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, mais ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement de la vie chrétienne. Amen. Là, il y a plusieurs choses dans ce passage. Il nous parle de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance pour que nous soyons remplis. Amen. Il y a la notion d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et je pense que vous avez tous expérimenté à un moment donné ou à un autre cette plénitude, le fait d'être visité par le Saint-Esprit, le fait d'être rempli, le fait d'être touché, et c'est bien, amen, mais ce n'est pas suffisant, amen. On nous parle d'être rempli, mais il nous parle aussi au verset 20 de cette puissance qui agit en nous. Cette puissance qui agit en nous, pourquoi ? Pour nous changer, pour nous transformer, pour que nous puissions devenir les instruments que Dieu a préparés, a voulu que nous soyons, qu'il a prévu que nous soyons, qu'il a voulu que nous soyons. Et ça, c'est la deuxième étape. La première chose, c'est de sentir, de goûter, de voir comment Dieu est bon, d'être rempli de cette plénitude. Mais si tu peux être béni, visité, et que tu n'es pas changé, ça ne te servira pas à grand-chose. Amen. Et je sais qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, qui sont touchés par la présence de Dieu, qui dans leur esprit voient et ressentent un certain nombre de choses, et pourtant, malgré tout, dans leur vie, ça ne bouge pas. Dans leur vie, il n'y a pas d'évolution. Et en fait, pour que nous puissions voir des changements, des évolutions, on a tous envie de voir le Seigneur agir, intervenir dans les choses, dans les circonstances de nos vies. On a tous envie de ça et ça, c'est normal. Mais parfois, on ne voit pas ces choses. Parfois, on ne voit pas ces choses. Parfois, tu peux sentir que la bénédiction est là, que Dieu veut faire un miracle et tu passes à côté. Et en fait, la première des choses, c'est que nous devons être changés à l'intérieur si nous voulons voir l'extérieur changer. Amen. Le changement, il vient de l'intérieur. J'ai cette image d'un arbre. Voyez, un arbre qui porte des fruits. Et parfois, quand l'arbre n'est pas très bon, il ne va pas porter de très bons fruits. C'est pas parce que, par exemple, on va parler d'un manguier. Un manguier, il ne va pas donner des bananes. On est d'accord avec ça. Mais les mangues, elles peuvent être plus ou moins bonnes. Je ne sais pas si vous achetez des mangues au marché, mais parfois on tombe sur de très bonnes et parfois sur d'autres qui ne sont pas bonnes ou pas très bonnes. Et en fait, ça vient de la qualité de l'arbre. Et si tu veux voir dans ta vie des choses de qualité, il faut que l'arbre soit bon. Et pour que l'arbre soit bon, vous savez, ici je ne sais pas si on le fait, mais en Europe on peut avoir un arbre fruitier quelconque, et quand on veut qu'il porte des fruits d'une certaine qualité, on va greffer. C'est-à-dire qu'on va prendre un morceau d'un autre arbre et on va faire une entaille dans le tronc de l'arbre. On prend le morceau de l'autre arbre, le morceau du bon arbre, l'arbre qui nous intéresse. On va enfoncer ça dans le bois. On va lier ça assez serré. Et au bout d'un moment, ce qu'on appelle le greffon, ça va influencer l'arbre. Et l'arbre va commencer à porter des fruits différents. Donc, l'arbre, c'était un arbre fruitier. Si c'était un pommier ou un cerisier ou un prunier, peu importe, c'était vraiment cet arbre-là. Mais cet arbre ne portait pas des fruits de bonne qualité parce qu'il n'a pas été greffé. C'est-à-dire que de la greffe, il va y avoir quelque chose qui va être transmis à l'arbre. Amen. Donc, la nature de l'arbre est changée. Et nous pouvons expérimenter la présence de Dieu, mais tant que nous ne sommes pas véritablement changés en profondeur, nous ne pourrons pas porter de bons fruits. Et nous ne pourrons pas voir dans nos vies de bons fruits. Il y aura des fruits, oui, mais ça ne sera pas des fruits abondants et ça ne sera pas de bons fruits, de très bons fruits. Donc, on veut voir les changements à l'extérieur. On veut voir la bénédiction de Dieu. On veut voir la guérison, on veut voir la provision, on veut voir la réussite. Parfois, c'est dans les études ou dans le travail, dans les choses que nous faisons. Et pour pouvoir voir ce genre de fruits dans notre vie, il faut que, eh bien, il y ait un changement, une transformation à l'intérieur. Amen. Parce que quand on regarde dans notre vie, chacun d'entre nous, regardez bien, quand vous avez des problèmes, il y a au moins 80% des problèmes que nous traversons qui sont de notre faute. Non pas parce que nous faisons des erreurs fondamentales, mais souvent c'est lié à des mauvaises réactions, à des mauvaises compréhensions. On interprète mal certaines choses, on prend une mauvaise direction, on dit ce qu'il ne faut pas dire, et ça crée des problèmes ou ça augmente des petites choses qui auraient dû rester des petites choses jusqu'à ce que ça devienne des choses énormes, n'est-ce pas? Et là où il y a vraiment un besoin d'un changement, c'est à l'intérieur de nous. Parce que quand tu te comportes bien, quand tu parles bien, quand tu comprends bien, quand tu réagis bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais les petites choses resteront des petites choses. Et les grandes choses, parce que ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Quand on regarde, par exemple, la vie de Jésus, on voit que Jésus a été confronté à des difficultés. Parfois, c'était des problèmes avec les gens. Parfois, c'était des problèmes avec les circonstances. Mais il a tout surmonté. Parce que Jésus n'avait pas et n'a jamais eu de problème à l'intérieur de lui-même. Amen. Et nous sommes appelés à vivre exactement au même niveau et dans la même dimension que Jésus a vécu. Et pour cela, nous avons besoin de changer à l'intérieur de nous. Cette puissance, la puissance or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est vrai que la puissance de Dieu, elle agit en notre faveur dans nos circonstances, et c'est bien, on dit gloire à Dieu, mais elle agit aussi en nous, et c'est à nous de permettre à cette puissance de travailler, d'agir et de changer nos vies, de les changer véritablement. Parce que s'il y a une chose que nous ne sommes pas capables de faire, c'est de nous changer nous-mêmes. On peut faire des efforts, on peut changer certaines choses dans notre vie, essayer de s'organiser, de se discipliner. Et ça, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas tout. Si tu vis seulement dans ce niveau-là, tu ne vas pas vivre un changement intérieur. On peut faire des efforts à certains niveaux, mais à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas capables de nous changer. Nous ne sommes pas capables de changer notre mentalité. Nous ne sommes pas capables de changer notre caractère, notre façon de penser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment changer cela dans nos vies. cette puissance agissante en nous. Elle peut faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Bien souvent, nous ne demandons pas ou nous ne demandons pas beaucoup parce que nous ne voyons pas. Je vous assure que si nous pouvions voir qui véritablement est Jésus et que tel qu'il est, nous pouvons être aussi pleinement et complètement, eh bien, on demanderait beaucoup plus. Amen. On demanderait beaucoup plus. Mais nous sommes des êtres humains et bien souvent nous avons été habitués à vivre dans un niveau de médiocrité, dans un niveau d'incompréhension. Continuellement, nous faisons toujours les mêmes erreurs qui provoquent les mêmes problèmes et souvent on ne s'en rend même pas compte et on rejette ça sur les autres. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de rejeter sur les autres nos erreurs. Amen. Il est temps que nous arrêtions de rejeter nos fautes sur les autres. Il est temps, comme Jésus l'a dit, que nous arrêtions de voir la paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin alors que dans notre propre œil, il y a une poutre. Ça ne veut pas dire que nous pouvons changer nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça en nous. On va lire aussi Philippiens, chapitre 1 et verset 6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre et c'est lui qui va la rendre parfaite si nous collaborons avec lui. Si tu ne collabores pas, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu a des plans excellents pour ta vie. Il veut t'amener dans une dimension de gloire, dans une dimension de puissance, dans une dimension de choses merveilleuses. Ça, c'est ce qu'il veut. Et pour qu'il puisse arriver à le faire, il y a besoin d'une chose, c'est de ta collaboration et de ton acceptation que cette puissance du Saint-Esprit agisse en toi, change ta vie, brûle en toi ce qui n'est pas de Dieu, que ça soit brûlé, que ça soit consumé et jusqu'aux racines. Amen. Nous, la seule chose que nous pouvons faire quand nous essayons, c'est pour vous montrer une image. Vous avez déjà vu une plante, une mauvaise herbe. Si tu coupes la mauvaise herbe, tu vas voir qu'après quelque temps, ça va repousser. Et généralement, quand ça repousse plus fort. Amen. Si tu veux que une mauvaise herbe ne repousse plus, tu dois l'arracher et tu dois arracher toutes les racines. Et ça, nous ne sommes pas capables de faire ça dans notre propre vie. C'est pas parce que nous ne sommes pas capables que nous devons dire bon, c'est pas grave, après tout, Dieu est bon, nous sommes des hommes, donc nous sommes comme ça, c'est normal. Nous sommes comme ça, c'est normal, humainement parlant, mais spirituellement parlant, ce n'est pas normal. Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes des instruments pour Dieu. Et nous pouvons être de bons instruments comme nous pouvons être de mauvais instruments. Et un mauvais instrument, il ne sert à rien. Amen. Vous savez, dans l'église, on a du matériel de sonorisation. On a aussi des ventilateurs pour vous donner un exemple. Et un ventilateur, quand il est en mauvais état, il ne sert à rien. Parce qu'il ne peut pas fonctionner. Oh, il peut peut-être tourner. Mais s'il ne produit pas d'air, ça ne sert à rien. On peut peut-être le mettre en route, mais aussi il peut tomber en panne. Et c'est ce qui se passe pour la vie de pas mal de personnes, parce qu'ils sont en mauvais état. Et Dieu veut que tu sois en bon état. Amen. J'avais trois images ce matin, et on va parler de trois choses auxquelles Jésus nous compare. La première des choses, c'est que il nous compare au sel. Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 5 et au verset 13. Jésus dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Amen. Vous savez comme moi que quand on mange de la nourriture et qu'il n'y a pas de sel dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus montre que nous sommes le sel de la terre, dans le sens où sur cette terre, nous avons un rôle à jouer, nous avons une saveur à donner pour que les hommes aient envie de Jésus, pour que les hommes aient envie de se tourner vers Dieu, pour que les hommes puissent voir que nous sommes différents, que nous avons une saveur. Vous savez que dans ce monde, bien souvent, les chrétiens sont méprisés par les inconvertis. Amen. Et ça, ce n'est pas sans raison. Moi, je vois deux raisons à cela. Une des premières raisons, c'est que, bon, ils n'ont pas envie de Dieu, ils se moquent des choses de Dieu, et quand quelqu'un vit pieusement, il peut être ridiculisé, il peut être persécuté, il peut être méprisé. Ça peut être la première raison. Ou je dirais plutôt que c'est la deuxième raison. Parce que malheureusement, la première raison, celle que je vois en tout cas actuellement, c'est que les chrétiens ne donnent pas un bon témoignage. Pour les inconvertis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les chrétiens passent pour des débiles, pour des gens qui font des choses bizarres, pour des gens qui ont des comportements bizarres, pour des gens qui se permettent de dire aux autres comment est-ce qu'ils doivent vivre alors qu'eux-mêmes ne le font pas. Ou ils en font peut-être une partie, mais ailleurs ils sont pires. Vous le savez tous aussi bien que moi. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que les chrétiens n'ont pas de saveur et que le monde n'a pas envie de Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils sont pourris, c'est parce que nous ne donnons pas un bon témoignage. Nous ne rendons pas un bon témoignage. Si tu te présentes devant le monde et que tu montres une vie véritablement changée, une vie véritablement transformée par l'amour de Jésus-Christ, que tu ne sois pas quelqu'un qui dise aux autres « tu dois vivre comme ça, tu dois vivre comme ça, là tu as tort, là tu fais mal ». Jésus n'a jamais demandé que nous allions prêcher cela. Amen. Il a demandé que on aille prêcher le salut. Parce que il n'y a rien de plus normal pour un pécheur que de pécher. C'est pas en lui reprochant ses péchés que tu l'amèneras à Jésus, que tu l'amèneras à changer. Mais c'est en prêchant le salut. Non seulement en prêchant le salut, l'amour de Dieu, mais en démontrant par ta vie une vie changée. Vous savez, on n'amènera jamais des inconvertis à Christ si on ne leur manifeste pas de l'amour. On n'amènera jamais des gens à changer si on ne leur manifeste pas de l'amour. Quand on manifeste du jugement, de la critique, de la dureté, au lieu d'amener les gens à changer, on les amène à devenir pires. Le sel est supposé amener de la saveur. Et quand ta vie est assaisonnée de sel, tu donnes envie aux inconvertis de connaître Jésus. Quand tu démontres que ta vie est remplie d'amour, que ta vie est remplie de joie, que ta vie est remplie de paix, que tu es une personne qui fait grâce, qui pardonne, qui excuse, qui soutient, qui aide, tu vas donner envie de Christ aux autres. Et c'est là où tu seras véritablement du sel. Alors que quand ta vie est remplie de haine, de critique, d'orgueil, de jugement, tu en donnes envie de Jésus à personne. Et en plus, si tu es un chrétien fanatique ou un chrétien qui fait des choses bizarres, pour les païens qui ont un tant soit peu d'intelligence, tu vas passer pour un fou. Et ce qui est grave, c'est que quand on se comporte comme ça, on empêche les gens d'être sauvés. Amen. Je vous assure que, vraiment, ça c'est ma prière ce matin, que aucun d'entre nous, nous soyons de mauvais témoignages pour ce monde, et que à cause d'aucun d'entre nous, quelqu'un soit resté dans ses péchés et qu'il aille en enfer, parce que nous n'avons pas été le sel de cette terre comme nous aurions dû l'être. Amen. Donc vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et après Jésus continue et donne une deuxième image. Il est dit ensuite au verset 14 de Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes la lumière nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Non pas parce que nous sommes la lumière en nous-mêmes, mais parce que cette lumière est en nous et que cette lumière doit être visible. Il a dit, on ne met pas une lampe pour la mettre sous un lit, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire. Amen. Et il y a différentes sortes de lampes, il y a différentes sortes de lumières, il y a différentes sortes de qualités de lumière. Voyez, ici nous sommes dans une salle où il y a des néons qui sont là. D'abord, la première chose, c'est qu'il peut y avoir une lampe. Mais si on n'allume pas la lampe est éteinte. Et ça, c'est ce qu'on peut voir chez certains chrétiens. Ils sont supposés être la lumière du monde, alors qu'en réalité, ils ne sont que des lampes éteintes. Pour que tu sois une lampe allumée, il faut que tu sois connecté. Connecté à la source, connecté sur l'électricité. Et notre source, c'est Jésus. Et la puissance qui fait que nous soyons allumés, c'est la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous de ce passage d'Éphésiens que nous avons vu au début. Par cette puissance agissante en nous, qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous devons être continuellement connectés à cette puissance afin que nous ne soyons pas des lampes éteintes. Et même en parlant de lampes, il y a différentes lampes. Amen. Il y a des lampes, moi je ne sais pas, les ampoules au niveau des watts, 25 watts ça existe? 20? Les plus petites? Mais il y a aussi des ampoules de 100 watts. Amen. Et il y a même des ampoules bien plus grandes, bien plus puissantes. Quand je sais qu'ici, il n'y a pas de phare. Il n'y a pas de phare parce qu'on n'est pas au bord de la mer. Mais au bord de la mer, il y a des phares. Et quand le phare éclaire, il éclaire très 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 loin et avec une grande puissance. Amen. Alors, quelle lampe choisis-tu d'être? Être une lampe qui ne produit rien, qui est éteinte? Être une lampe qui a une faible puissance, qui éclaire à 20 cm? Ou est-ce que tu veux être un phare sur cette terre, parce que c'est ce que nous sommes appelés à être. Et plus il y aura de phares, plus la lumière va briller. Amen. Et plus les hommes vont voir cette lumière et vont vouloir venir à Christ. Nous avons un rôle à jouer. Et si les gens ne veulent pas venir à Christ, je ne vais pas nous mettre sous une condamnation, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, c'est notre faute. Parce que nous sommes effectivement des instruments, mais des instruments qui ne fonctionnent pas, ou des instruments qui sont en tellement mauvais état qu'au lieu d'attirer les gens à Christ, on leur donne envie de prendre la fuite. Nous sommes la lumière du monde, c'est Jésus qui l'a dit. Et que nous soyons vraiment une bonne lumière. La troisième image à laquelle j'ai pensé, mais d'abord on va, parlons lumière, j'aimerais qu'on lise aussi dans Luc. Dans Luc au chapitre 8, versets 16 à 18. Luc chapitre 8. Du verset 16 au verset 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est vraiment étonnant comment Jésus parle de la lumière et qu'il parle aussi du fait de prendre garde à la façon dont nous écoutons. La façon dont tu écoutes la parole de Dieu pour ta vie personnelle. Vous savez, quand on lit la parole comme cela, ou quand on écoute une prédication, il y a des choses qui sont dites et qui sont en fait qui ne sont pas dites par l'homme pour l'homme, mais qui sont dites pour l'homme bien sûr, mais par Dieu au travers de l'homme. Et quand tu ne reçois pas la parole de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, elle ne va rien produire en toi. Amen. Ça nous est tous arrivé parfois d'entendre une parole, même des fois au travers, tu parles avec quelqu'un et tout à coup le Seigneur commence à te parler au travers de cette personne. Et bien souvent, cette personne, elle s'en rend même pas compte. Mais toi, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Et parfois, tu reçois cela et parfois, tu résistes. Parfois, tu ne veux pas. Et quand tu ne veux pas, tu n'écoutes pas de la bonne manière. Tu n'écoutes pas de manière à recevoir. Amen. Et quand on n'écoute pas de manière à recevoir, je vous assure que on ne va pas donner beaucoup de lumière. La troisième image, donc, que, comme je vous le disais, à laquelle j'ai pensé, c'est l'image des outres. Les outres, qu'est-ce que c'est qu'une outre ? Une outre, c'est quelque chose en pot qui sert à contenir du vin. Et Jésus donne une parabole dans Luc au chapitre 5 à propos des outres et il commence avec l'image du drap. Et on va lire ensemble ça, c'est Luc 5, verset 36 au verset 38. Il leur dit aussi cette parabole, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Qu'est-ce que c'est que cette image ? Un vieux drap qui se déchire. Si le vieux drap se déchire, on ne va pas mettre un morceau de tissu nouveau parce que ça va augmenter la déchirure du drap. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement ? Nous ne pouvons pas vivre dans les vieilles choses, dans nos vieilles façons d'être, dans nos vieilles façons de penser et mettre un tout petit peu ici, un tout petit peu là de la parole de Dieu juste quand ça nous arrange. Parce que ça va déchirer complètement notre vie et le Seigneur ne veut pas cela. Il veut que sa parole soit une bénédiction pour nous et non pas une malédiction. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et nous devons vivre et nous devons marcher dans la nouveauté des choses de Dieu. Que ce soit dans notre vie, nous sommes de nouvelles créatures. Et nous devons mettre continuellement en nous, dans nos vies, les choses nouvelles que Dieu veut mettre, permettre que ces choses soient réalisées. C'est pour ça, comme on l'a dit au début, ce passage d'Éphésiens 3, verset 19, cette puissance agissante dans nos vies qui nous transforme. Nous avons besoin d'être changés afin que nous ne ressemblions plus à ces vieux draps qui se déchirent si facilement. Amen. Dieu ne veut pas que ta vie se déchire, il veut que ta vie soit solide. On parle aussi des outres, les outres neuves. Une vieille outre, c'est une outre qui est usagée. Et quand on met du vin nouveau dedans, l'outre va se déchirer, elle va se rompre. Qu'est-ce que c'est que ce vin nouveau ? C'est ce mouvement du Saint-Esprit. Quand le mouvement du Saint-Esprit se manifeste et que tu es une outre neuve qui a été changée, tu peux contenir cela. Tu peux vraiment le contenir. Si tu n'as pas été touché, si tu n'as pas été changé, tu es semblable à une outre vieille, remplie de religion. Et le vieux vin, c'est l'image de la religion. La religion, c'est quelque chose qui est confortable. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Il faut être comme ci, il faut pas être comme ça. D'abord, c'est pas agréable, mais c'est confortable. C'est confortable. Mais dans la religion, il n'y a pas de vie. Dans la religion, il n'y a pas de réveil. Le vin nouveau, c'est le symbole du réveil qui va t'amener à sortir de toi-même. Qui va t'amener là où tu n'es pas capable d'aller par toi-même. Et quand tu as un esprit religieux, c'est-à-dire que tu es une vieille outre, tu ne pourras pas vivre et évoluer dans ces choses. Amen. Amen. Donc que ce matin, puissions réfléchir au fait que nous sommes le sel de cette terre, nous sommes la lumière du monde et que nous devons être des outres neuves. Afin que ce mouvement du Saint-Esprit puisse couler et se manifester. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Parce que si Dieu veut ces choses, c'est pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Et nous devons permettre à cette puissance de Dieu d'agir dans nos vies afin que nous soyons davantage changés et transformés. Amen. Soyez bénis et passez une bonne journée.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.